Bienvenue à chacun pour cette formation du cycle 1 sur les points fondamentaux de la foi. Aujourd'hui, nous faisons un petit détour de notre credo habituel pour commenter ce que nous appelons la prière dominicale, la prière que le Seigneur nous a donnée, le Notre Père. Dans Saint Luc, au chapitre 11, un jour, quelque part, Jésus priait. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » L'Église nous dit « C'est en réponse à cette demande que le Seigneur confie à ses disciples et à son Église la prière chrétienne fondamentale. » Voilà. Dans la prière du Notre Père, nous avons tout les demandes, toute l'orientation de la vie chrétienne. C'est la prière chrétienne fondamentale, elle est plus grande, d'une certaine mesure, que le « Je vous salue Marie ». C'est vraiment la prière centrale des chrétiens. Je vais la développer tout à l'heure. Deux grandes traditions du Notre Père sont données dans l'Écriture. Vous avez cela en Saint Luc, qui est un Notre Père condensé, avec cinq demandes. Et la tradition de l'Église a retenu la prière du Notre Père en Saint Matthieu, qui a sept demandes. Nous les connaissons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Voilà. Sept demandes qui sont faites à Dieu notre Père, qui sont faites, nous allons voir, dans un certain ordre, parce que cet ordre est théologal et qui nous aide à vivre le chemin de la sainteté. Mais le chiffre 7, c'est aussi une plénitude. Le Notre Père est une plénitude de la prière. Il y a 7 jours de cela, semaine, il y a 7 sacrements. Je disais aux catéchumènes, hélas, il y a 7 familles de péchés capitaux, mais il y a aussi 7 demandes dans le Notre Père qui sont comme la source, la synthèse de la vie chrétienne. Donc voilà, c'est très important. Très tôt chez les chrétiens, l'usage liturgique du Notre Père a été de rajouter une fameuse doxologie, c'est-à-dire quelque chose qui rend gloire à Dieu. La doxa en grec, c'est quelque chose qui rend, c'est la gloire. Donc la doxologie, c'est le discours de la gloire, c'est rendre gloire à Dieu. Cette doxologie, nous l'avons pendant la messe. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est une attitude d'adoration et vous voyez que c'est une réponse aussi, nous le verrons, aux trois premières demandes du Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Eh bien, les chrétiens, dès le début de l'Église, ont répondu à la fin du Notre Père par cette attitude d'adoration, car en effet, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Nous avons cette doxologie à la fin de la récitation du Notre Père dans la liturgie. Voyons, nous rendons gloire à Dieu de manière particulière encore. Alors, dans l'Église, beaucoup ont réfléchi sur la qualité du Notre Père, sur le sens profond du Notre Père. Saint Augustin qui disait que les béatitudes étaient comme le portrait de Jésus, quand on voit les béatitudes, on voit le portrait robot de Jésus, on pourrait dire en langage moderne. De la même manière, le Notre Père est le résumé de tout l'Évangile. Le Notre Père est le résumé de tout l'Évangile. On l'a dit déjà du « Je vous salue Marie », on avait dit que c'était un pape qui avait dit cela, mais de manière éminente, on peut le dire pour le Notre Père. Saint Augustin a dit « Parcourez toutes les prières qui sont dans les Écritures, et je ne crois pas que vous puissiez trouver quelque chose qui ne soit pas compris dans l'oraison dominicale. » Voilà. Vous ne trouverez pas quelque chose qui ne soit pas compris dans l'oraison dominicale, donc dans l'intégration du Notre Père. Peut-être arrêtons-nous déjà sur ce mot « oraison dominicale » qui veut dire « la prière du Seigneur ». Dominus, le Seigneur, l'oraison dominicale, l'oraison du Seigneur. Voilà, comme on a le dies domini, le jour du Seigneur, qui est le dimanche. Voilà. Et de fait, le dies domini, le jour du Seigneur, les chrétiens se rassemblent et au centre de la célébration eucharistique, il y a la prière du Seigneur. Donc on voit la centralité de cette prière dans le jour central qui est le jour du Seigneur. C'est pour ça que les chrétiens aiment chanter aussi le Notre Père ou le réciter avec grande solennité ce jour-là, parce que c'est la synthèse de l'Évangile, la synthèse de la prière que le Seigneur nous a donnée dans le jour du Seigneur. Voilà pour saint Augustin qui disait que on ne trouvera rien dans l'Évangile qui ne soit pas compris dans l'oraison dominicale. Et plus tard, saint Thomas d'Aquin, un autre docteur de l'Église, d'ajouter « L'oraison dominicale est la plus parfaite des prières. En elle, non seulement nous demandons tout ce que nous pouvons désirer avec rectitude, » il dit deux choses là, « En elle, non seulement nous demandons tout ce que nous pouvons désirer, » mais il rajoute « avec rectitude » et nous allons le voir, mais il ajoute encore « mais encore selon l'ordre » où il convient de le désirer, de sorte que cette prière non seulement nous enseigne à demander, il ajoute encore des choses, mais elle forme aussi toute notre affectivité. Et il ajoute encore des choses. Alors, commentons un peu ces mots, qui me semblent très denses. En elle, non seulement nous demandons tout ce que nous pouvons désirer, mais avec rectitude. Si saint Augustin dit que la prière dominicale est le résumé de l'Évangile, de toutes les prières de l'Évangile, effectivement, tout ce que nous pouvons demander, « Seigneur, sauve-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, est-ce que je peux te suivre, Seigneur, viens à mon aide », c'est dans le Notre Père. Toutes ces demandes-là sont dans le Notre Père. Mais nous allons les dire avec rectitude. Qu'est-ce que ça veut dire ? Selon l'agencement de la foi. Selon l'agencement de la foi. Et en ce sens, il nous faut déjà commencer à commenter ce que nous allons continuer, les demandes du Notre Père. En effet, les trois premières demandes du Notre Père concernent la vie théologale. Et les quatre autres sont le chemin spirituel chrétien. Les trois premières concernent la vie théologale. Quand nous disons que ton nom soit sanctifié, nous vivons avec la vertu théologale de foi. Nous savons qu'un chrétien, c'est un composé d'humanité et de vie spirituelle, voilà, le tout étant lié, que nous avons des vertus naturelles qu'on regroupe dans quatre familles, les vertus cardinales, ce sont les vertus naturelles, cardinales de force, de justice, de prudence et de tempérance. Donc ce sont des vertus naturelles, des plis que nous avons à exercer pour vivre bien notre humanité. Mais ça ne fait pas un chrétien, ça. Ça fait un bon humaniste. Le Seigneur va se servir de cela pour faire de nous des hommes debout. Et on a un travail à faire. Mais pour faire un bon chrétien, il faut vivre de vertus surnaturelles que le Seigneur nous donne directement depuis notre baptême. Ces vertus ne sont plus des vertus cardinales, donc les plus importantes au niveau humain, mais sont des vertus surnaturelles qu'on appelle théologales, parce qu'elles nous unissent à Dieu directement. Elles ne sont pas la production de l'homme. Et elles sont premières, parce qu'on pourrait être un peu déglingué dans notre humanité et toujours avancer vers la sainteté. Donc ce sont les premières qui vont restaurer même les secondes, ou même aider les secondes à marcher à plein pot. Donc ces vertus théologales qui nous relient directement à Dieu et qui sont données par Dieu depuis le baptême et qu'en vit la vie chrétienne, c'est quoi? C'est la croissance dans la foi, l'espérance et la charité. Donc la foi est d'abord un don naturel, un don surnaturel, avant d'être même une collaboration à Dieu. De la même manière, le don de l'espérance est un don surnaturel et non pas un optimisme béat. Ça, ou même le positivisme ou l'espoir, c'est de l'humanisme. L'espérance, ça n'a rien à voir, c'est surnaturel. De la même manière, la charité, c'est un don surnaturel. C'est peut-être la grande hérésie des chrétiens en ce moment, c'est de croire qu'on peut aimer sans la foi, sans le don de Dieu. On peut aimer humainement, mais pas surnaturellement. C'est un don surnaturel. Et quand nous voyons plus la différence, c'est que notre vertu théologale de charité a bien été endormi. Beaucoup de choses ne tiennent pas sans la vertu théologale de la charité. On voit qu'on fait des actions par pure générosité humaine, mais non pas de fécondité spirituelle. Où est le problème? C'est que ça ne relève pas de la charité surnaturelle. Voyez? Donc le Notre Père enseigne avec rectitude cela quand nous disons « Que ton nom soit sanctifié, nous allons le voir, nous agissons avec la vertu théologale de la foi. Quand nous disons « Que ton règne vienne », nous agissons, et Dieu agit en nous d'abord, avec la vertu théologale de l'espérance. Et quand nous disons « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », il s'agit de recevoir la volonté de Dieu pour nous, qui est la charité de Dieu pour nous et pour les autres à travers nous, et de même de correspondre à l'amour de Dieu pour nous, de l'aimer ainsi et d'aimer les autres selon la volonté de Dieu. Ainsi, c'est la charité surnaturelle, la vertu théologale de charité. Et vous voyez que ces trois vertus théologales vont conditionner le reste. Elles sont mises en premier parce qu'elles orientent tout. Si ces vertus-là ne sont pas mises en premier, ces demandes ne sont pas mises en premier dans notre cœur, priorité à la sainteté de Dieu, que ton nom soit sanctifié, à son règne, priorité à sa volonté, le reste est désordonné. Et ainsi, saint Thomas d'Aquin nous dit, cette prière nous enseigne à prier avec rectitude. Parce qu'on verra, on peut demander des choses qui ne sont pas ordonnées à la volonté de Dieu. Pour nous, et même bonnes. Et même bonnes. Ainsi, ça ne fait pas l'exercice de la foi, de l'espérance et de la charité. C'est désordonné. Et donc, ça n'intègre pas vraiment la volonté de Dieu sur nous. De la même manière, on peut demander l'aide de Dieu, mais oublier que le nom de Dieu soit sanctifié. Et on voit qu'on s'est trompé de priorité. Parce que c'est la première priorité, que le nom de Dieu soit sanctifié. Vous voyez l'importance. Voilà, notre Père. Donc on voit saint Thomas d'Aquin nous parle, nous dit, et voilà, de désirer cela avec rectitude, cette plénitude. Donc elle nous donne l'ordre. Donc elle nous enseigne effectivement comment demander. Mais aussi, il l'ajoute, elle forme aussi notre affectivité. Ah oui, pourquoi? Parce que celui qui place les vertus théologales en premier dans sa vie va peu à peu se détourner de lui-même, va se décentrer pour se centrer sur Dieu. Il va plus aimer dans sa prière Dieu que lui. Ou s'il va s'aimer, il va s'aimer sous le regard de Dieu. Ce qui est différent de dire « Viens à mon aide à tout prix, aide-moi par pitié, donne-moi mon pain de ce jour. » D'accord, mais d'abord que ton nom soit sanctifié. Quel est mon lien par rapport à la sainteté de Dieu? Quel est mon lien par rapport à la volonté de Dieu? Donc ça nous apprend à nous décentrer et à ce moment-là de faire un travail qui passe de l'affect à la raison, de la raison à la foi. Ainsi on redresse l'affectivité qui souvent est autocentrée ou désordonnée. Et nous retrouvons là quelque chose que nous avons déjà parlé dans le plan du salut, que l'être humain a été en son interne désordonné, que le spirituel n'a plus de prise et n'est plus dominateur sur l'intellectuel, et l'intellectuel n'est plus dominateur sur les passions. Tout ça est désordonné. Donc, même le Notre Père est une œuvre de reconstruction si on sait l'employer dans l'ordre. Voilà. Ça nous forme notre affectivité. Donc, c'est du solide. Vous voyez que ce n'est pas simplement une prière de ceux qui sont... C'est une prière de confiance. Mais ce n'est pas simplement une prière, on va dire, de petits-enfants qui ont peur. C'est une prière de petits-enfants dans la confiance, mais aussi d'hommes debout qui veulent devenir plus en plus hommes, reconstruits. Ça, c'est fort. Qui prie le Notre Père? C'est nous? Ah oui, mais pas que. C'est le Christ qui prie en nous. Voyez-vous, un beau témoignage de cela, je le disais au catéchumène vendredi, c'est saint François d'Assise. Saint François d'Assise priait le Notre Père en regardant la croix du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Ça veut dire qu'il voyait le Christ, il s'identifiait au Christ, tout en étant toujours une altérité insurmontable, il est le Seigneur et François n'est qu'une créature. Il est devenu son maître et François est devenu son disciple et ami, mais c'est toujours une altérité insurmontable. Pourtant, le Seigneur a voulu qu'il lui ressemble parfaitement. On a dit de François d'Assise, l'alter Christus, l'autre Christ, est stigmatisé. Donc, et ça, c'est la vocation de tout chrétien, qu'on soit stigmatisé ou pas, c'est d'être fils dans le Fils, on est d'accord. De devenir Christ, d'où être chrétien. D'accord. Donc ça veut dire que nous ne nous arrêtons pas au Christ, même si dans la finalité, il est notre Dieu et nous l'adorons. Nous nous tournons vers le Père à travers le Christ. Et donc, quelque part, nous prions avec le Christ. C'est pas simplement nous prions le Christ, nous prions les sentiments du Christ. Nous prions dans sa prière, nous nous décentrons de notre prière pour rentrer dans sa prière, et dans sa prière, nous prions le Père. Et quand nous prions, nous sommes invités à sentir dans la foi, ça peut arriver de le sentir réellement, mais de le sentir d'abord dans la foi pure que Jésus prie en moi. Comme dit saint Paul dans les Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et Jésus me donne ses sentiments, sa confiance filiale, me donne de rentrer dans sa prière, qui est beaucoup plus large que la mienne. Vous pouvez faire la même expérience dans la prière sacerdotale de Jean 17, quand Jésus prie « Père, qui tous ils soient un, comme nous sommes un ». Il y a une forme de décentrement et nous pouvons rentrer dans une immensité là de prière. Voilà, c'est rentrer dans les sentiments de Jésus, toute la spiritualité du cœur de Jésus, c'est ça. Rentrer dans les sentiments de Jésus. Voilà. Donc c'est le Christ qui prie en nous, et nous nous tournons vers le Père avec le Christ. Et là, nous retrouvons la prière eucharistique, le sens de la prière eucharistique, sur la place de l'oraison dominicale dans la liturgie eucharistique. Pourquoi ? C'est au moment où le Christ s'est donné, est mort et ressuscité, que nous avons consacré les saintes espèces, que nous prions le Notre Père. Parce que le Christ prie avec nous. Vous voyez ? Nous avons dit par lui, avec lui et en lui. Et à ce moment-là, nous prions par lui, avec lui et en lui, le Notre Père. Le Christ prie avec nous, en nous. C'est très fort. Ça, vraiment, c'est le sommet de la vie chrétienne. C'est le sommet de la vie chrétienne. Je crois que pour le pape Paul VI, le sommet du Nouveau Testament était l'Épître aux Romains sur l'Esprit Saint qui nous fait dire « Abba Père ». Mais quand on y réfléchit, c'est la même chose. C'est nous sommes tournés vers la fin, finalité qui est le Père. Et donc, on le fait dans le Christ, dans l'Esprit Saint. Voyez ? Ça, c'est le sommet de la vie chrétienne. Et c'est le sommet parce que c'est pas de l'extérieur que nous prions le Notre Père, comme pourrait le faire un musulman, quelqu'un qui cherche la foi, nous le faisons unis dans la Trinité, parce que le Fils est en nous. Nous prions Dieu par Dieu, parce que Dieu est en nous. C'est un truc de fou. Et ça, personne n'a accès à la Trinité, sauf s'il est baptisé, de l'intérieur. Il peut le contempler de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Vous vous souvenez, Jean 1, verset 18, le Fils qui était dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Nous prions dans le sein du Père, avec Jésus. Voilà, pour cette prière du Notre Père, qui c'est qui l'a pris ? C'est Jésus qui l'a pris en nous. Et cette prière donc est fondamentale, qui a sa place dans l'oraison, qui est l'oraison dominicale, qui a sa place dans la liturgie de l'Eucharistie le dimanche de manière particulière. C'est une prière structurante pour toute la tradition de l'Église. Ainsi, elle est placée 3 fois dans la journée. Ah oui, elle est placée centralement à l'Eucharistie. Je vous ai dit le lien particulier avec le Christ. Elle est placée aussi dans les offices, pour les religieux, les prêtres, les consacrés, pour ceux qui prient l'office, les consacrés. C'est les laudes et les vêpres. Et elle est placée comme une prière très importante, un sommet. Voyez ? Donc elle ponctue la journée. Elle ponctue la journée. Donc c'est une prière qui ponctue la journée. En fait, c'est quoi ? C'est notre orientation vers le Père, source de tout et finalité de tout, qui ponctue notre journée, qui ponctue la vie de l'Église. Voyez ? L'importance. Il faut avoir conscience de cela. La vie chrétienne, c'est vers le Père et ça retourne au Père. Je dois dire aussi que cette prière, nous l'apprenons au sérieux dans la grande tradition de l'Église. Je fais une parenthèse, mais c'est important. J'ai entendu récemment le père Cantalamessa, le prédicateur de la maison pontificale, franciscain, entre parenthèses spécialiste du renouveau charismatique des pères de l'Église et de Charles Péguy, je ferme la parenthèse, mais le père Cantalamessa disait que peut-être au XXe siècle, le grand inconnu avait été le Saint-Esprit. différents mouvements spirituels, y compris le renouveau charismatique, mais pas que, mais aussi, avaient redécouvert cette docilité au Saint-Esprit, qui avait été préparée par des grands maîtres. On peut penser au Père Marie-Eugène, sur la docilité au Saint-Esprit, qui avait été découvert vraiment au moment du Concile Vatican II, avec l'appel à la sainteté universelle, etc. D'accord. Donc il a dit vraiment, il faut redécouvrir le Saint-Esprit. Mais il avait rajouté, et j'étais témoin, parce qu'il l'a dit il y a 2-3 ans, il était près de la Vendée, il avait parlé à des prêtres et à des religieux. Maintenant, le grand inconnu, c'est Dieu le Père. C'est le Père, le grand inconnu. Voilà. Il y a un christocentrisme qui peut être mal équilibré, qui peut dire, on est chrétien, Christ, c'est vrai, Christ notre Seigneur, mais où est le Père? Est-ce que je prie le Père? Et il y a un vrai enjeu de redécouvrir la paternité du Père. Alors je crois que, pour nous préparer à l'année de la miséricorde, miséricordieux comme le Père, voilà, il y a un vrai enjeu. Et quand Jésus dit, Jean 14, 9, « Qui me voit, voit le Père », il faut qu'on découvre le Père. C'est vital. Et voyez, l'enjeu de découvrir le Père, c'est quoi? C'est que c'est un enjeu déjà de simplification de vie, l'abandon, la confiance du petit enfant. J'ai parlé tout à l'heure de la structuration de l'homme, je ne l'oublie pas, mais aussi la fraternité. Le fait de savoir qu'on a tous une origine. Vous voyez les enjeux actuels. Voilà. Et même la simplification du message évangélique. Quand Jean-Paul II, qui proclame le doctorat de Thérèse de Lisieux, dit ben, « elle a compris le cœur de l'évangile ». Le cœur de l'évangile pour Thérèse, c'est être un petit enfant. Voilà, donc il y a quelque chose du Père, là, qu'il faut qu'on redécouvre. Donc voilà, le Père Cantalamessa disait « le grand inconnu ». Aujourd'hui, c'est la personne du Père. Donc, c'est important, je pense, que de méditer le Père. Je disais encore aux catéchumènes deux choses. Je leur disais qu'on a surpris Thérèse de Lisieux dans sa cellule, très joyeuse. Et une sœur disait, mais qu'est-ce que vous faites? Elle disait, je prie le Notre Père. C'est beau. Et une autre personne, un autre religieux, qui recevait les confessions, mais ce n'est pas les confessions, les requêtes d'une autre religieuse qui disait, ben voilà, il y a une sœur, elle a du mal à prier. Hein. Ah bon, mais comment elle fait? Elle va la voir, comment elle prie alors? Elle m'a dit, ben moi j'essaye de prier notre Père, j'y arrive pas. Ah bon? Oui, je dis notre Père, et puis je m'arrête, je trouve ça tellement beau. Alors elle lui a dit, ben continuez, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, donc il y a une méditation du Notre Père à avoir, c'est un sommet de la contemplation chrétienne. Donc, on peut le dire lentement. Thérèse de Lisieux conseillait de prier lentement cela. Voilà. Donc, cette prière est importante pour nous, chemin de la mystique, le sommeil, il y a besoin de la redécouvrir. Dans la tradition que nous donnons aux catéchumènes, nous leur donnons le Notre Père. Vous voyez, nous leur donnons le credo. Généralement, c'est le samedi avant à 10 étapes durant le carême. Dans la messe le samedi, nous faisons ici sur la paroisse, le prêtre proclame seul, et pas l'assemblée, en tant que ministre, il donne le credo aux futurs baptisés. Parce que c'est la foi dans laquelle ils vont être baptisés et confirmés. Tout à fait. Et à un moment donné, ils doivent le restituer. De la même manière, on donne le Notre Père à un moment donné, dans la célébration, dans les étapes. Mais quand est-ce qu'il la restitue? Ça c'est très beau, ils vont la restituer à la veillée pascale. Pourquoi? Parce qu'en tant que baptisé, il prie dans le Christ maintenant, le Notre Père. Et c'est la restitution pour lui. La foi solennelle où il restitue le Notre Père, c'est la veille pascale. C'est beau, hein? Ça fait prendre conscience en fait, on ne peut prier pleinement le Notre Père qu'avec le Christ, et donc avec la grâce du baptême. Quelque chose de très fort. Voilà. Effectivement aussi, j'ajoute au niveau biblique, que le Notre Père était connu dans l'Ancien Testament, peut-être pas de la manière Notre Père, mais on disait qu'Israël, que Dieu était un père pour Israël, parce qu'il était père des pauvres, parce qu'il est un père de miséricorde, Rahamim, parce que le terme Hesed en hébreu veut dire aussi la fidélité, et que l'Alliance montre la paternité de Dieu, que sa loi est la pédagogie du Père, etc. Mais la différence juive et chrétienne ne se situe pas. Se situe sur les concepts, mais plus profondément sur l'expérience. Nous ne rentrons pas dans le judaïsme, dans l'intimité du Père. Elle est donnée par celui qui est dans le sein du Père, qui est le Christ. Nous connaissons le Père de l'extérieur, qui suit le troupeau en général, nous connaissons avec le Christ, le Père de l'intérieur, qui suit ma personne et qui me prend dans ses bras. C'est très différent. Et qui me prend dans ses bras à l'image de son Fils, comme son Fils unique. Ça, c'est l'expérience chrétienne. C'est l'expérience de la tendresse, l'expérience des tripes du Père. Voilà. Ça, c'est unique. C'est un sommet. Voilà, on pourrait dire, c'est un niveau de profondeur et un niveau de qualité supérieur. Voilà. Alors, maintenant, nous allons commenter les mots « Notre Père », ce qui me semble important. Préambule pour commenter les différentes demandes. Celui qui veut rentrer dans un esprit filial doit développer en lui un esprit de crainte. Celui qui veut prier doit aussi être celui qui doit craindre Dieu. Ah bon ? Eh oui, parce que vous savez, dans les dons, dans Isaïe 11, les dons du Saint-Esprit, il y a une redondance sur le don de crainte, qui les pères de l'Église ont compris, toute la tradition, comme le don filial, qui est le don du Fils qui a confiance en son Père. Mais avant, il y a le don de crainte qui consiste à respecter Dieu tel qu'il est. Ainsi, Dieu, quand il se révèle à Moïse et qui dit Dieu à Moïse qu'il a entendu la souffrance de son peuple, c'est-à-dire la souffrance de son peuple, c'est-à-dire sa souffrance, et il va agir dans sa paternité. Alors je disais que le don d'adoration, c'est ce que nous retrouvons avec Moïse, qui par exemple, Dieu va lui dire « N'approche pas, ôte tes sandales. » Voilà. Ça veut dire la dimension de « c'est un lieu saint ». Et quand nous prions le Notre Père, nous sommes en présence de la sainteté de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le Notre Père est dit au moment de la consécration juste après. Parce que là est le buisson ardent par excellence. Là est le feu, la sainteté de Dieu. Et que Dieu est adoré. Et donc nous devons avoir cette conscience qu'on ne prend pas de manière légère le Notre Père. Ça doit nous émerveiller. Vous voyez, souvent dans le christianisme au XXe siècle, deuxième partie généralement, avant on a eu peur de Dieu, donc c'est dommage. Mais après, quelque part, on a fait de Dieu son pote. Une sorte d'oubli que Dieu est Dieu. Et si nous faut retrouver que Dieu est Dieu, la sainteté de Dieu, comme ont cette image, pas forcément ajustée, mais l'ont nos frères musulmans ou nos frères juifs, la sainteté de Dieu. Donc, ôte tes sandales, c'est le seuil de la sainteté divine. Seul Jésus peut franchir ce seuil. Et c'est Jésus qui nous aide à franchir ce seuil. Ayant accompli, nous dit l'Épître aux Hébreux, la purification des péchés. En fait, on ne rentre pas dans le Notre Père sans la grâce de Jésus. Ça serait un blasphème, ça serait, comment dire, une violence qui n'est pas possible. Et Jésus dit cette parole en l'Épître aux Hébreux aussi. « Nous voici, moi et mes enfants que tu m'as donnés. » Voyez, on va dire « Notre Père » devant la sainteté de Dieu, parce que Jésus dit avec nous « Nous voici, moi » il s'adresse au Père « et mes enfants que tu m'as donnés. » Hébreux 2, 13. Alors, voilà ce que nous dit Pierre Chrysologue, un grand saint. Début, voilà, Père de l'Église. La conscience que nous avons de notre situation d'esclave nous ferait rentrer sous terre. Notre condition terrestre se fondrait en poussière si l'autorité, donc on voit la sainteté de Dieu, si l'autorité de notre Père lui-même et l'esprit de son Fils ne nous poussaient pas à proférer ce cri « Abba Père » Romains 8, 15. Quand la faiblesse d'un mortel oserait-elle appeler Dieu son Père, sinon seulement lorsque l'intime de l'homme est animé par la puissance d'en haut. Donc voilà, nous voyons l'adoration de Dieu, et en même temps nous y allons parce que le Christ nous a rachetés, et donc il nous est donné une juste compréhension filiale, une juste confiance filiale. Nous y allons dans la foi, dans la confiance. Et ça c'est très important, je le disais aux catéchumènes, ne nous regardons pas trop, regardons Dieu toujours pour l'adorer, regardons Dieu même quand nous péchons ou quand nous sommes malheureux. Combien de personnes se détournent de l'amour de Dieu en se disant « Je suis plus digne ». C'est pas vrai. Dieu est plus grand que mon péché. dans la foi pure, je peux l'adorer, je peux lui dire notre Père, parce que ma foi vient de Jésus. Et Jésus intercède pour moi et il dit, nous voici, moi et mes enfants que tu m'as donnés, me voici avec un tel et un tel que tu m'as donné. Donc je ne compte pas sur mes forces. Et si j'ai cette tentation de dire, je ne suis plus digne, ça veut dire qu'avant j'avais la tentation peut-être de dire, je vais y aller tout seul. Donc dans les deux cas, je me suis trompé. Je peux toujours y aller parce que c'est Jésus, et avant je n'y allais pas tout seul parce que c'est aussi Jésus et que je ne méritais rien. Ça c'est très important. C'est une gratuité, mais qui nous rend pauvres. C'est une gratuité qui nous rend pauvres. Donc voilà, celui qui sait bien prier le Notre Père est en fait un pauvre de cœur. On retrouve cette anecdote, la personne disait, le Notre Père, ben je m'arrête et c'est bon. Voilà, donc on voit finalement ce que dira le catéchisme de l'Église plus tard sur la première partie, avant de commenter le Notre Père, le mystère de la prière, que l'humilité et la purification sont nécessaires pour prier. L'humilité étant le fondement de la prière. Rappelons-nous ce qu'a dit le curé d'Ars. Les vertus, c'est les graines du chapelet. Vous enlevez l'humilité, c'est comme si vous enlevez la corde du chapelet. Toutes les graines tombent. Toutes les graines tombent. Et donc c'est important de garder cela. L'humilité nous fait reconnaître que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Donc voilà, nous allons découvrir l'expérience du Père par Jésus, et donc faut être humble, dépossédé, en disant, « Mais Seigneur, aide-moi à rentrer là-dedans. » Matthieu 11, verset 27. Du coup, on voit que la... Et ça, c'est important ce que dit l'Église, je crois, pour aujourd'hui, qui beaucoup sont blessés. La purification du cœur concerne les images paternelles ou maternelles, issues de notre histoire personnelle et culturelle, et qui influencent notre relation à Dieu. Dieu notre Père transcende les catégories du monde créé. Prier le Notre Père va purifier en nous l'image que nous avons eue de parents qui ont pu nous blesser, d'être orphelins et de ne pas savoir ce que c'est que être aimé par un Père inconditionnellement. D'avoir senti à un moment donné une brisure parce que mes parents se sont divorcés. Ben non, Dieu est fidèle, il est Père, il m'aime inconditionnellement et ça peut me guérir. Ça peut me guérir moi, dans tout mon être, malgré mes blessures, mais ça peut me guérir sur la vision de l'homme pour pouvoir avancer un projet plus tard, parce que la blessure paralyse. Donc on voit l'enjeu, la purification du cœur. Et oui, et Paul nous disait, je plie le genou devant Père, devant Dieu le Père, qui est la source de toute paternité. Hein ? C'est pas notre paternité qui est la source. Notre paternité, notre maternité, vient de Dieu le Père, qui en est la source et le modèle. Donc, si on va à la source, on va restaurer le reste, au moins spirituellement, et comme on sait que le spirituel prédomine sur l'intellectuel et le passionnel, ben ça reconstruit un peu le bonhomme. Voilà. Ça me semble important. Donc, vous voyez, ça, c'est pour la relation personnelle. Mais vous voyez aussi, c'est une relation ecclésiale. Et encore une fois, elle est centrale dans l'Eucharistie. Nous ne disons pas « mon papa à moi ». Nous disons « notre Père ». Nous disons notre Père parce que nous le disons avec Jésus qui prie en nous, mais Jésus tout de suite nous intègre dans un océan d'amour, qui est la paternité de Dieu, mais cet océan, il est aussi avec d'autres. On nage à plusieurs. C'est ecclésial. C'est ecclésial. Et donc nous voyons, nous sommes à nouveau décentrés, et Dieu, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous découvrons ce qu'est la vraie fraternité. Vous voyez ? Donc il y a un lien très profond, nous qui rentrons bientôt dans la miséricorde, entre contemplation et charité sociale. Parce que le Notre Père nous fait frère. Donc celui qui rentre là-dedans va être plus actif, dans le bon sens du terme, dans l'agir. Donc c'est notre Père, parce que nous prions notre Père dans la foi de l'Église. Ce n'est pas ma conception, c'est la foi de l'Église qui m'est donnée pour comprendre le Notre Père. Et si j'atrophie quelque chose du message de la foi de l'Église, j'atrophie un peu le visage du Père. Vous voyez, le credo qui contient toute la foi est comme une pelote de laine. Vous tirez une ficelle, vous pensez enlever qu'un morceau, mais tout va partir. Il y a un équilibre. On appelle ça la composition organique de la foi. Elle est globale, elle a une synthèse. Et en fait, vous enlevez un élément de la foi, que ce soit un dogme marial, de l'écriture, etc. Vous touchez à la paternité de Dieu. Parce que Dieu a révélé sa paternité selon plein de facettes. Vous voyez ? C'est important. D'ailleurs, on voit souvent qu'on fait une hérésie, on finit finalement par être dur. Ça part par un souci de rigueur, on finit par être dur. Tiens, c'est marrant, mais pourquoi? Parce qu'on finit par ne plus être un enfant de Dieu, mais être rigide. Mais c'est lié. C'est lié. Notre Père qui est aux cieux. L'expression biblique de qui est aux cieux ne signifie pas un lieu, mais une manière d'être. Non pas l'éloignement de Dieu, mais sa majesté. Parce que plus un être est céleste et rempli de la grâce, plus il est près de nous. C'est ce qu'avait dit Benoît XVI en parlant de la Vierge Marie. Elle est la plus proche de Dieu, donc elle est la plus proche de nous. Un truc de fou. On dit, ah ben non, ils sont éloignés. C'est tout l'inverse. Dieu est plus proche de nous que le sont nos proches pour nous. Mais on n'en a pas toujours conscience, mais c'est vrai. Donc notre Père qui est aux cieux, c'est une qualité d'être qui lui fait qu'il est très proche de nous. Et cette qualité d'être, les cieux, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence céleste. Voyez, il y a quelque chose de très grand là-dedans. Il est l'au-delà de tout, de ce que nous pouvons concevoir de sa sainteté. Il est l'au-delà de tout. Voilà. Et donc du coup, nous avons pris cette image des cieux, parce qu'elle nous parle, la dimension, c'est comme pour les Grecs qui étaient fascinés par les étoiles, ils croyaient que c'était des dieux. Pour nous, le ciel a cette dimension, comment dire, céleste. On voit les représentations, Marie qui monte au ciel, le Christ qui monte au ciel, les anges et compagnie. Mais l'idée, c'est quoi derrière? C'est qu'on voit une sorte de plénitude, une paix, une joie. Or, il faut savoir que cette plénitude, cette paix, cette lumière, cette joie, au-delà des intempéries des nuages, elle n'est pas derrière les étoiles, parce que depuis qu'on va sur la Lune, on voit que le Seigneur n'est pas là-bas. Et même après, mais en fait, c'est une qualité d'être qui est proche de nous, qui est proche de nous, notre Père qui est aux cieux. Et cette qualité d'être, nous y sommes déjà dedans. Alors ça, c'est un truc étonnant. Quand les chrétiens disent « notre Père qui est aux cieux », ils affirment, nous dit l'Église, que déjà ils sont assis aux cieux dans le Christ Jésus, Éphésiens 2, 6, qu'ils sont cachés dans le Christ Jésus. Alors, cette expérience-là, le vivent de manière particulière, elle est contemplative. Ils sont ici, mais là-haut. Nous sommes du monde et hors du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? On va citer l'épître à Diogène, un épître des premiers siècles. Voilà ce qu'il est dit. Les chrétiens sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Pourquoi? Parce que quelque part, si le Christ nous a incorporés à lui, si nous prions le Père en lui, il y a quelque chose du royaume de Dieu qui est en nous. Et en cela, notre vraie identité la plus profonde, elle est déjà gravée dans le cœur du Père. Et donc, quelque part, il y a quelque chose de nous qui est là-haut. Pour le dire autrement, j'invente, vous imaginez la télécommande d'une voiture électrique qui est en haut. Et alors vous dites, mais la voiture électrique, elle est là. Donc c'est ça. Mais tout l'origine du mouvement, il est là-haut. Eh bien, c'est ça. On est caché en Christ. On est en Christ. Quand nous disons « Notre Père qui est aux cieux », il y a quelque chose de moi, de nous, qui est là-haut, avec Dieu. Ou plus exactement, Dieu est là. C'est la même chose. Voyez. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors on y vient. Première demande théologale, la foi. Alors le terme « sanctifié » nous dit, alors je cite la parole de l'Église dans son catéchisme, le terme sanctifié doit s'entendre ici non d'abord dans un sens causatif, Dieu seul sanctifie, rend saint, mais surtout dans un sens estimatif, reconnaître comme saint, traiter d'une manière sainte. C'est ainsi que dans l'adoration, cette invocation est parfois comprise comme une louange et une action de grâce. Donc on voit d'abord, ce n'est pas à comprendre dans le sens c'est Dieu seul qui rend saint, même si c'est vrai. Mais c'est d'abord le traiter comme un acte d'adoration, que ton nom soit sanctifié. Alors, moi, on va rajouter ceci qui me semble important. Vous imaginez un petit enfant, on imagine Moïse, voilà. Moïse qui voit le Seigneur saint, alors il voit qu'une image du Seigneur à travers la sainteté, le feu, pour reprendre l'événement dans l'Exode. D'accord. Eh bien, il aurait pu dire, tu es saint, tu es le feu, tu brûles, il n'y a pas d'impureté en toi, c'est extraordinaire. Et il aurait pu dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, sois encore saint, sois saint. Et le feu aurait pu lui dire, Mon petit bonhomme, j'ai pas besoin de toi pour brûler. J'ai pas besoin de toi pour être saint. Je me débrouille bien tout seul. J'ai pas attendu que tu me dises que ton nom soit sanctifié pour que je te dise que je suis saint. Ou que je sois saint. Je l'ai toujours été. Alors on pourrait dire, alors ça sert pas à grand chose de dire que ton nom soit sanctifié, il l'est. Ça sert à quoi? On l'adore, on voit sa brillance, mais on l'aide pas plus que ça. Ça a une valeur d'adoration, comme je vous disais. Mais ça a une valeur de participation à la sainteté de Dieu. Ah bon, comment? Parce que le chrétien va faire connaître la sainteté de Dieu. Quand nous disons que ton nom soit sanctifié, c'est faire connaître que Dieu seul est saint. C'est faire connaître donc le vrai visage de Dieu. Et dans le contexte du terrorisme où nous sommes, pas forcément trop en France, mais un peu quand même, mais dans plein d'endroits, c'est quoi? C'est justement, on a abîmé l'image de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui tue. Donc on a touché à sa sainteté. On est du coup devenu idolâtre. Donc le chrétien doit restaurer la vraie image de Dieu en montrant qui est Dieu, la vraie sainteté de Dieu. Comment va-t-il le faire? En adorant d'abord le saint, mais ensuite en étant porte-parole du saint, en parlant du saint. Mais la meilleure porte-parole, c'est celui qui est témoin. Donc c'est le saint lui-même qui parle le mieux de la sainteté de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit dans le Lévitique et dans 1 Pierre 1,16, « Soyez saints, car je suis saint ». Quand nous disons « Que ton nom soit sanctifié », première demande, nous voulons montrer la sainteté de Dieu, nous l'adorons, vertu de foi, et donc c'est notre chemin de sainteté qui est en jeu. Si je ne suis pas saint, je ne montrerai pas la sainteté de Dieu. Donc nous voyons que ça ordonne toutes les demandes après. Donc je peux demander une Porsche, si ça ne me fait pas grandir pour la sainteté, c'est mort. Et bien c'est aussi vrai. Et pourquoi je n'ai pas été exaucé? Parce que ce n'est pas ton chemin de sainteté. Parce que ce n'est pas sur ce chemin-là que tu vas pouvoir manifester la sainteté de Dieu. Voyez, si les premières demandes ne sont pas mises dans l'ordre, c'est raté. Donc ça c'est important. La sainteté de Dieu. Je trouve que c'est très fort parce que voilà ce que dit saint Pierre, chrysologue encore. Je trouve ça extraordinaire. Nous demandons à Dieu de sanctifier son nom, car c'est par la sainteté qu'il sauve et sanctifie toute la création. Il s'agit du nom qui donne le salut au monde perdu. Et oui, nous connaissons la sainteté de Dieu en connaissant Dieu comme Père, parce que Jésus-Christ nous a révélé qu'il est Père, au sens fort du terme. Nous avons accès au nom, et quand nous confessons le nom qui est au-dessus de tout nom, eh bien qu'est-ce que c'est? Nous proclamons la sainteté, et nous devons vivre dans ce nom. Voilà. Quand Jésus prit sa prière sacerdotale en disant « Garde-les en moi, garde-les, j'aurais fait connaître ton nom, j'aurais fait connaître ta sainteté. Garde-les dans la sainteté. » Voilà. Donc on a vraiment un appel à la sainteté. Donc voilà ce que dit Pierre Chrysologue. Nous demandons à Dieu de sanctifier son nom, car c'est la sainteté qu'il sauve et sanctifie toute la création. Il s'agit du nom qui donne le salut au monde perdu, mais nous demandons que ce nom de Dieu soit sanctifié en nous par notre vie. Car si nous vivons bien, le nom divin est béni. Mais si nous vivons mal, il est blasphémé. Selon la parole de l'apôtre, en Romains 2, 24, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations. C'est fort. Si les gens ne connaissent pas le vrai saint, pour une part, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas assez saints. Les porte-paroles de celui qui est saint, ceux qui ont vocation à sanctifier le nom de Dieu, se sont-ils sanctifiés assez pour que le nom du saint soit connu? Voyez le vrai enjeu. C'est la prière fondamentale du Notre Père. Ça va haut, hein? Après cette foi, donc vous voyez la foi, le chemin de sainteté, là, on est à plein dedans. On va passer à l'espérance. Que ton règne vienne. L'espérance, vous savez, c'est une vertu théologale. Le père Marie-Eugène disait que c'est la vertu qui fait marcher. C'est-à-dire qu'on peut croire en Dieu, on peut aimer ce qui nous unit en Dieu. Dieu, s'il nous donne la foi, la connexion, l'amour nous unit à lui, nous transforme. Mais pour aller vers la transformation, on a besoin de se pousser un petit peu, ou d'être poussé, ou de recevoir ce qu'il faut sur le chemin. C'est la vertu qui fait marcher. On pourrait avoir toute la foi, mais être un vieux paresseux. Et en fait, on n'est pas transformé, parce qu'on ne s'est pas mis en marche. En fait, on a péché contre l'espérance. Et donc l'espérance, cette vertu, est à la fois temporelle et finale. Elle a une dimension les fins dernières, c'est pas mal, on rentre dans l'année, dans la liturgie de l'Église, c'est ça en ce moment. Les fins dernières et en même temps temporelles. Alors, il y a deux péchés contre l'espérance que nous pouvons faire. La première, c'est la désespérance. Dieu va pas m'aider. C'est foutu, je suis pécheur, j'ai raté, etc. Oh, je vais pas y arriver. Oh, j'ai toujours mal. Oh là là, etc. Donc on désespère. En fait, on regarde nos propres forces. On oublie de dire que Dieu nous donne tout ce qui est bon, et il nous impose rien qui est trop dur à nous, nous dirait Sainte Thérèse, et que c'est sa divine providence qui est à l'œuvre. Donc il va nous aider. D'accord? Il va nous donner ce qu'il faut pour marcher. Mais la deuxième chose, c'est l'inverse. C'est la version « je suis un peu paresseux », le feignastam, taïm. Alors c'est quoi? Ça consiste à dire, c'est la présomption, nous dirait Thomas d'Aquin. Oh, ben il va m'aider, donc c'est bon. On ne se met pas forcément en œuvre. Notre Père qui est aux cieux, et de moi, merci. Et on ne fait pas grand-chose. Et des fois, il faut se secouer un peu. Si nous avons à marcher, qu'on nous aidera à marcher, des fois nous ne marchons pas. Et il faut se forcer à marcher. Il faut des fois se forcer tout court. Donc il y a un vrai enjeu, et ne pas croire qu'on est déjà arrivé. Ne pas croire qu'on est déjà arrivé. Le vrai saint a peur pour sa sainteté, mais il est confiant en Dieu. Vous savez cette blague qu'on raconte, une anecdote de Jean-Paul II. Il était malade, et des religieux lui disent « Votre sainteté, on se fait du souci pour vous. » Et le pape de répondre « Moi aussi, je me fais du souci pour ma sainteté. » Voilà. Donc il y a un vrai enjeu là. Qui se joue, il y a un vrai enjeu. Alors, les fins dernières, c'est que nous espérons aller vers Dieu. Que ton règne vienne. C'est la dimension eschatologique. Voilà. Et ce règne s'est rapproché. Il est même dans la personne de Jésus. Parce que c'est le Verbe pécheur. Il est au milieu de nous. C'est Dieu parmi nous, l'Emmanuel. C'est ce que nous allons fêter à Noël. C'est ce royaume de Dieu. Et nous vivons le déjà et pas encore. C'est une formule théologique. Il est déjà là, le Seigneur, mais nous avons le début de quelque chose qui sera au ciel, totalement consumé. Donc c'est le déjà là, mais pas encore. Nous sommes tendus vers là. Et un bon cheminement dans le règne qui vient dans la vie d'un chrétien, c'est qu'on voit son désir doit grandir du ciel. Comme disait Thérèse d'Avila, je meurs dans un poème, je meurs de ne pas mourir. Il y a cette idée de je suis tendu vers. Et on voit bien que si un vrai Notre Père, ça devient que temporel, c'est pas placé la vertu d'espérance. Elle est mal placée. Ça doit nous décentrer vers le ciel de plus en plus. Voilà. Mais vous voyez, ce vers le ciel ne doit pas nous désincarner du réel. En effet, c'est tout l'inverse. Un chrétien qui s'oriente vers Dieu et qui désire Dieu est d'autant plus incarné. C'est l'exemple de Paul, et j'aimerais partir, mais pour vous, je reste parce que je peux être utile. C'est exactement ce que saint Martin dira avant de mourir, où ses moines lui diront « Mais reste avec nous, on a besoin de toi ». Et de manière magnifique, je le cite, mais je ne sais plus littéralement par cœur, c'est il dira, en gros, « Si je suis encore utile, là, Seigneur, je veux bien rester. » Voilà. Il voulait partir pour son Seigneur, mais il dit « Si je suis encore utile, je vais rester. » Donc il y a cette dimension de le chrétien qui découvre, qui grandit dans l'amour du ciel, que ton règne vienne, va vouloir être disponible ici-bas pour placer le règne de Dieu. Et donc c'est toute la charité qui va s'investir dans le temporel pour faire advenir ici-bas le royaume de Dieu. Royaume qui sera toujours imparfait, mais royaume qui est nécessaire parce que nous devons faire manifester la sainteté de Dieu. Et ça c'est très important et l'Église va préciser cela. Et parce qu'il y a un enjeu, comme le dit l'Épître aux Romains, que ce règne de Dieu soit justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Et donc nous voyons toute la doctrine sociale qui va se déployer, toute l'éthique conjugale, etc., se déployer pour que dès ici-bas le royaume de Dieu advienne, que nous montrons la sainteté de Dieu, que l'harmonie ici-bas ressemble à la Jérusalem céleste, bien que cela soit accompli. Ça va passer par des lois d'ordre, d'abord, parce qu'on ne fonde pas la charité sans la vérité. Mais les lois d'ordre ne seront qu'une étape, parce que nous savons, la justice n'amène pas à la paix. Ce qui amène à la paix, c'est le pardon. Voyez ? Donc on installe ici-bas une communion, déjà. On essaye, mais elle sera imparfaite. Et là, l'Église nous enseigne sur un point précis sur le règne de Dieu. Le discernement selon l'Esprit. Les chrétiens doivent distinguer entre la croissance du règne de Dieu et le progrès de la culture et de la société dans laquelle ils sont engagés. Il n'est pas dit parce que nous connaissons plus, que nous faisons plus avec nos moyens techniques, que le règne de Dieu est plus avancé. Il faut distinguer entre efficacité et fécondité. C'est valable pour la vie personnelle comme la vie sociale. C'est le vrai critère de mesure de l'Église. Ce n'est pas l'idéologie du progrès qui en ce moment partout. Oh, mais c'est les mœurs se changent. Vous savez, c'est le chemin de l'histoire. On va dans le progrès. Ce n'est pas dit que le règne de Dieu avance ainsi. Voyez. Et quand nous disons le règne de Dieu, nous ne parlons pas de cela. Voyez. Mais pourtant, on a un enjeu là-dessus. Donc, vertu d'espérance. Que ta volonté soit faite, c'est la charité. Si Dieu est saint, Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 13 qu'au ciel nous ne vivons plus de foi puisque nous le voyons, nous ne vivons plus d'espérance puisque nous avons ce que nous désirions, mais nous vivons toujours de charité et nous grandissons dans la charité au ciel. La vertu théologale de charité continue à exister, c'est même la seule. D'accord. Donc on voit le « que ta volonté soit faite », c'est un peu central. Parce que ça va durer, les anges aussi sont la volonté de Dieu. Et nous voyons en fait que la mesure de notre charité est liée à la capacité d'un chrétien à faire la volonté du Père. Alors ça c'est très intéressant parce que souvent nous mettons tellement d'émotions, le mot aimer est grevé de pourriture. Pardonnez-moi, je suis un peu cash. Le mot aimer est grevé d'hérésie. Aujourd'hui on pense qu'aimer c'est sentir. Aimer, c'est d'abord un choix au niveau humain, qu'on sente ou pas. Le sentiment peut aider à aimer, mais qu'il est que premier. On peut choisir d'aimer, et l'épître, l'hymne de l'amour à la charité, 1 Corinthiens 13, nous dit que la charité supporte tout, endure tout, espère tout, et trouve sa joie dans le vrai. Mais excusez-moi, il n'y a pas trop de sentiments là-dedans. Le vrai, on n'y est pas toujours, ça nous remet en cause. Mais ça, c'est le vrai amour. Donc, le vrai amour, la vraie volonté de Dieu, c'est aussi être capable d'endurer tout, supporter tout, aimer tout. Ah ah ! Donc on n'est pas dans le sentiment. Et donc nous voyons souvent que la volonté de Dieu, elle ne nous plaît pas, parce qu'elle touche nos sentiments. Donc il faut se poser, structurer dans la foi. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Seigneur nous a dit cela en Jean 15. Et il nous a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Donc on voit, son commandement, c'est sa volonté. Et il y a un lien entre sa volonté et l'amour. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, on ne peut pas dire qu'il aime, vraiment. Et c'est très étonnant, parce que nous pourrons faire des choses du style aimer les autres, généreusement, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu sur nous ou à travers nous pour eux, nous ne les aimons pas. C'est l'exemple de Sainte Thérèse et d'une sœur religieuse qui, elle, très zélée, voulait faire plein de choses. Et Sainte Thérèse a dit, il faudra peut-être en parler à la Mère supérieure. Et on verra bien. Parce que si ce n'est pas ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ah bon ? Eh bien, si la sœur n'avait pas écouté Sainte Thérèse, elle l'aurait peut-être fait, bien fait, avec plein de sentiments. Mais elle n'aurait pas plus aimé l'autre. Voyez. Et donc une charité des fois va nous priver du sentiment, du style « tu quitteras ton père et ta mère, oh c'est dur, oh mais je ne suis pas sympa ». Mais en fait, c'est leur rendre vraiment un amour plus grand que de partir vers le Christ, parce que je serais plus utile comme ça pour eux. La volonté de Dieu ne correspond pas à notre sentiment, mais elle a des incidences sur tout le reste, au-delà de nous-mêmes. Donc c'est important, voilà. Et quelle est la volonté principale du Seigneur ? Nous en connaissons un objet. Alors, je rajoute, le Seigneur nous fait connaître sa volonté, en grande part. Pour les grandes lignes, c'est très clair. Les lignes plus discrètes, les interlignes, ça prend du temps. Et puis aussi, il nous aide à la vivre. Parce que vous savez, comme il a dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », texte très mal compris, qui en grec, le mot « kathos comme » veut dire « de l'origine ». Ça veut dire « Aimez-vous les uns les autres de mon origine, de l'origine même de mon amour. C'est moi qui donne l'amour, je suis la source de l'amour. » C'est pas « on va t'imiter et puis on va essayer d'y arriver ». Non, je vous donne mon amour. Lien théologal de la charité. Et là, vous voyez la grosse hérésie pratique dans nos activités, c'est qu'on croit que c'est simplement du moralisme. J'imite. Mais non, c'est la source, Jésus. Donc, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc ça, c'est la source. Et nous connaissons la volonté de Dieu, la grande volonté de Dieu. 1 Timothée 2, 3, 4. que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc voyez, on connaît, c'est être sauvé et faire connaître Jésus. En gros, c'est aimer Jésus et faire aimer Jésus. Donc ça doit être la grille de lecture sans arrêt de tout le reste. Et donc, je vais pouvoir poser les demandes après en fonction de cela. Et vous voyez, je terminerai par là. Jésus dit dans les Épîtres aux Hébreux, qui est vraiment le Christ sacerdotal dans l'Épître aux Hébreux, il est montré ainsi, en s'incarnant, voilà ce que nous dit l'Épître aux Hébreux en Hébreux 10. « Voici, je viens faire, ô Dieu, ta volonté. » Et voilà ce que dit Jésus en Jean 8, 29. « Je fais toujours ce qui lui plaît. » Et il ajoutera dans un autre passage de Saint Jean, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. » Donc on voit là Jésus qui aime parce qu'il fait toujours. Jésus a la passion, Père, non pas ma volonté mais la tienne, parce qu'il aime. L'amour, il est là. Et c'est très fort, c'est que nous voyons faire la volonté nous ouvre la paternité de Dieu. Faire la volonté de Dieu nous ouvre à l'océan d'amour de Dieu. C'est ce qu'on nous dit, c'est très fort, 1 Jean 5, 14, Jean 9, 31. Si quelqu'un fait la volonté de Dieu, celui-là, Dieu l'exauce. Dieu ne va pas faire quelque chose de contraire à sa volonté. Dieu veut faire propager son amour. Celui qui fait sa volonté, ben Dieu va le favoriser encore plus. Non pas pour dire c'est bien, je te remercie, mais parce que s'ouvre à ce moment-là l'action de l'amour sur lui. Et donc si nous faisons la volonté, nous serons exaucés. Si quelqu'un fait la volonté de Dieu, celui-là, Dieu l'exauce. Donc une prière qui correspond au dessein de Dieu sur nous et à travers nous pour les autres est forcément exaucée. Et donc nous avons vu là comment les choses sont orientées dans les demandes suivantes. Alors comme c'est long, nous allons couper l'enseignement et à 18h ce soir, il y aura les quatre autres commentaires.